Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de la médiathèque José Cabanis pour cette deuxième conférence débat d'un nouveau cycle que vous avez découvert il y a quelques semaines, qui s'intitule « Quand les sciences s'en mêlent ». Aujourd'hui, la thématique qui a été choisie traite, comme vous le savez, des virus qui nous entourent, de la biologie à l'informatique, avec deux personnes éminentes qui sont toulousaines et qui travaillent dans les laboratoires toulousains. Je vous présente Bernard Mariamé, qui est chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui est spécialiste des virus. Yves Desvart, qui est directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, au LAS, le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes. Merci messieurs d'être avec nous ce soir pour évoquer donc ces deux mondes dissemblables, mais finalement bien semblables sous certains aspects. On va le découvrir à travers évidemment les virus et qui font partie de notre vie. On entend parler tous les jours des antibiotiques qui évidemment sont pas automatiques. On a tous la publicité en tête et évidemment tous les jours on entend fais gaffe, pas sur ce site, il est dangereux. Donc vraiment au quotidien on est là-dedans. On va examiner plusieurs axes au cours de cette soirée. Bien sûr vous êtes invités à réagir et à poser des questions si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous manifester. On va peut-être expliquer le déroulement de ce débat avec deux axes principaux qui sont les différents types de microbes, ensuite la propagation, le développement, la reproduction et la transmission de ces virus, de ces microbes. Un deuxième axe qui abordera la question de la détection des virus et les défenses du système. Et puis, on ne va pas terminer la soirée de manière anxiogène, on va essayer de détendre l'atmosphère en évoquant les vers ou les virus qui évoluent et qui deviennent utiles visiblement. On évoquera tout ça. Par qui commence-t-on? Bernard peut-être. Bernard Mariamé de l'INSERM. Voilà, alors ces microbes, ils sont au quotidien dans nos corps, dans notre vie. Comment on peut les définir? Quel nombre? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de définir le nombre de microbes? Il y en a une infinité?
Oui, quasiment une infinité, probablement. Maintenant, quand on parle de microbes, il faut bien distinguer les choses dont on parle, parce que dans les microbes, c'est un grand terme fourre-tout. Et il y a deux types de microbes, et je peux prendre la première diapositive. Je voudrais bien, dans un premier temps, juste pour savoir vraiment de quoi on va parler ce soir, et puis ce soir, on va parler des virus. Et dans les microbes, on a tendance à placer deux grandes catégories de micro-organismes qui, d'une part, sont les bactéries et, d'autre part, les virus. Alors, ce soir, on va parler essentiellement des virus et, très rapidement, les grandes différences entre virus et bactéries. Une bactérie, c'est un organisme vivant complet. Il n'y a absolument pas d'ambiguïté sur le fait que c'est un organisme vivant. Il se nourrit, il respire, il se reproduit tout seul. C'est un organisme très compliqué, très complexe, qui procède d'une information. Tout ça se trouve dans un espace confiné par une membrane, par une paroi. Ça se déplace éventuellement. C'est véritablement un organisme vivant à part entière et du point de vue taille, c'est aussi un organisme qui est énormément plus grand que les virus. Les virus que je vous ai représentés ici ne sont évidemment pas du tout à l'échelle comparée à la bactérie qui est là. Les virus, au contraire, sont des espèces d'empilement d'un certain nombre de molécules qui sont très clairement des molécules du monde vivant, puisque ce sont des protéines, ce sont éventuellement un peu de lipides, ce sont surtout des acides nucléiques qui contiennent leur information, mais surtout ils sont énormément plus petits. Et vous voyez ici, c'est pour ça que je vous ai mis cette illustration ici, parce que cette espèce de bâtonnet que vous voyez là au milieu de cette image, ça c'est une bactérie. Mais c'est une bactérie qui est infectée par des virus. Et vous voyez tous les petits points comme des petits clous qui sont fichés dans cette bactérie. Ce sont des virus, et ça vous donne une idée du rapport de taille entre une bactérie qui n'est déjà pas grande, hein, une bactérie c'est beaucoup plus petit qu'une de nos cellules en général, et un virus qui est encore nettement plus petit qu'une bactérie. Donc on parle vraiment de deux mondes complètement différents. On oublie ce soir les bactéries, qui sont un monde tout à fait intéressant et passionnant, qui contient toute une série de pathogènes aussi, et donc nous allons nous intéresser à ces fameux virus. Alors, là, sur les virus, bon, on va pas parler, enfin, si, on va beaucoup parler des virus, mais on va certainement pas épuiser le sujet ce soir. Et il y a essentiellement, il y a un aspect sur lequel moi j'aime bien insister. D'abord pour illustrer le fait qu'on m'a présenté comme un spécialiste des virus humains, ce qui est extrêmement flatteur, et je remercie notre présentateur, mais c'est extraordinairement surfait. parce que le monde des virus est tellement extraordinairement diversifié que personne n'est spécialiste de, même pas des virus humains, ni même encore a fortiori de l'ensemble des virus. Pour illustrer ça, j'ai pris cet exemple. Vous voyez ici une photographie d'un petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans, qui est un tout petit ver nématode, il fait quelques millimètres de long. Et ce petit ver est devenu très intéressant, c'est vraiment devenu l'outil de base des généticiens actuellement, tout simplement parce que on connaît, au cours du développement embryonnaire de ce ver, on connaît maintenant le devenir de chaque cellule. Enfin, ça, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est que ce petit ver, tout ridicule, tout pas joli de 3 mm de long, il possède quand même, pour faire tout ce qu'il a à faire, il possède 17 000 gènes. Il y a donc un génome qui code, qui est capable de fabriquer, qui contient une information pour 17 000 gènes. Et nous, humains, extraordinairement orgueilleux, l'aboutissement à nos yeux, en tout cas de l'évolution, eh bien, on a en tout et pour tout deux fois plus de gènes que ce ridicule petit ver. C'est pour vous dire que le rapport entre les deux, c'est peu de choses. Eh bien, si on regarde les deux extrémités de l'échelle du monde viral, et que l'on prend, j'ai pas pris même, c'est même pas le plus petit que l'on connaisse, mais c'est un polyomavirus, c'est tout de même parmi les plus petits virus que l'on connaisse, l'information génétique de ce petit virus, c'est 5000 paires de bases. Alors, paires de bases, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous avez peut-être entendu parler de l'ADN. Eh bien, l'ADN, en fait, est formé d'une succession de ces paires de bases, et c'est donc l'enchaînement de ces paires de bases qui va permettre de définir l'information génétique. Eh bien, ce petit polyomavirus qui a 5 gènes, il se débrouille dans la vie avec ses 5000 paires de bases. Et puis, il y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans maintenant, a été isolé dans un laboratoire de Marseille le plus gros virus que l'on ait découvert à ce jour, qui est un mimivirus. Et lui, ce mimivirus, qui est un virus d'amibe, eh bien, lui, son génome, son information génétique, c'est 1 200 000 paires de bases. C'est-à-dire qu'entre le plus petit et le plus grand des virus, vous avez un rapport de 240 fois dans la taille de l'information. Alors qu'entre ce petit ver et nous, le rapport est seulement de 2. Ceci, c'est pour vous montrer que le monde viral est vraiment extraordinairement complexe et diversifié. Alors, je pense que je vais peut-être passer la parole à un regard différent sur les virus informatiques maintenant.
Avec Yves Desvart, oui. On va faire le comparatif donc des deux mondes.
Voilà. Oui, donc là, on a la chance avec les virus informatiques de tomber sur quelque chose de beaucoup plus simple. D'abord parce que ça a été créé par l'homme, et donc on est capable de faire des choses beaucoup plus simples que ce qu'invente la nature avec ces millions d'années. Et là, le virus informatique, on va le définir comme un segment de programme qui s'insère, qui doit être inséré dans un programme qu'on exécute pour pouvoir exister et pour pouvoir être actif et à ce moment-là se recopier. Donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un programme, vous savez à peu près ce que c'est qu'un ordinateur. En voilà un sur la photo. L'ordinateur, quand il fait quelque chose, en fait, il exécute un programme, c'est-à-dire une suite d'instructions dans lequel, qui ressemble à une recette de cuisine, donc c'est toujours la même recette qui est enregistrée à l'intérieur de l'ordinateur et qu'on exécute au fur et à mesure systématiquement. Et donc, un programme, c'est une suite d'instructions. Ah, j'ai perdu, j'ai eu le tort de... d'appuyer sur le mauvais bouton.
Un virus.
Je vais relancer.
Oui. Bon, a priori, elle n'est pas infectée, votre machine. Tout va bien. Je rappelle que vous êtes chercheur et responsable de sécurité informatique, c'est ça, dans le domaine de la sécurité informatique.
Et donc, dans cette suite d'instructions, dans un programme normal, qui est ce programme où on lira les instructions normales en noir, eh bien, un virus va aller modifier ou créer quelques instructions, modifier ou insérer quelques instructions, ce qui fait que lorsqu'on exécutera le programme, par exemple ici pour traiter de la musique, visiblement, eh bien, en exécutant le programme, qui se passera peut-être normalement sans aucun effet, en plus, on va exécuter les instructions du virus, qui, première chose qu'il devrait faire, c'est de se recopier, c'est-à-dire de créer une copie de ces mêmes instructions, ces quelques instructions qui sont insérées dans le programme, sur un autre programme. Un programme où on peut écrire. Donc très souvent, et c'était ça la réalité au départ, on écrivait sur une disquette, parce qu'on échangeait beaucoup de programmes dans des disquettes. Les disquettes, on pouvait facilement écrire dessus. Donc un programme très simple, un petit bout de programme comme un virus, pouvait écrire sur une disquette dans un programme qui existait déjà sur la disquette. On faisait juste insérer quelques instructions. Ou de la même façon, on pouvait aussi écrire sur le disque dur de la machine ou encore sur la mémoire de l'ordinateur, les programmes qui sont déjà en mémoire dans l'ordinateur. Mais cela, c'est pas très intéressant parce que la machine est déjà infectée. Donc elle va, pour pouvoir vivre le virus, il faut qu'il se propage à d'autres machines. Et se propager à d'autres machines, la façon la plus simple, c'était effectivement que la disquette, on l'amène sur une autre machine où on va exécuter le programme qui est sur la disquette. Exécutant le programme qui est sur la disquette, on va exécuter le virus qui va recommencer sa vie en recopiant ses petites instructions sur un autre programme quelque part qui lui-même sera un jour inscrit sur une disquette qui se propagera comme ça en un effet de diffusion plus ou moins exponentielle. Alors ça, c'est les virus informatiques au sens strict. Ça a à peu près disparu. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de virus informatiques. Donc je finis là la conférence. Pas tout à fait. Pourquoi les virus ont-ils paru? C'est parce qu'aujourd'hui, ben, on a de moins en moins de disquettes. Vous avez peut-être remarqué. Moi, j'ai un ordinateur, il n'y a pas de lecteur de disquettes. On n'échange plus de programmes d'une machine à l'autre par des disquettes. De temps en temps, par une clé USB, mais en général, c'est très rare qu'on échange des programmes. On installe un programme sur une machine, soit en le téléchargeant depuis Internet, soit en achetant un CD sur lequel on va installer des programmes. Donc, on ne peut plus écrire sur des programmes. En tout cas, pas écrire sur des programmes à distance, c'est beaucoup plus difficile. Sur le réseau, c'est très difficile d'aller modifier le programme qui se trouve sur votre machine quelque part. Sur votre machine à vous, oui, vous pouvez. Et qui c'est qui va aller lire vos programmes à vous? Donc les virus ne se propagent plus, parce que pour les propager, il faut qu'on recopie quelque part cette zone de virus sur quelque chose, sur un programme qui va s'exécuter ailleurs ou l'autre. Donc c'est devenu très difficile. Les virus sont à peu près disparus, même si on en parle toujours. Hein. Ce qui existe à la place, c'est les vers infectés. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Je ne dis pas qu'il y en a autant que de virus dans le biologique, sûrement pas, il n'y a pas la même diversité. Mais les virus, ce que nous on appelle des vers informatiques, ce que les autres appellent des virus, c'est comme les bactéries au sens où Michel les a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire des êtres vivants autonomes, des êtres complets. Là, c'est des programmes autonomes, ils n'ont pas besoin d'un autre programme pour s'exécuter. C'est un programme qui trouve le moyen d'être exécuté et quand il s'exécute, il réussit à se propager en créant des copies et en les envoyant ailleurs. Et ça, c'est beaucoup plus facile sur les réseaux d'aller trouver une faille sur une machine qui se trouve sur Internet quelque part. Parmi les millions et les millions, le milliard de machines qui sont connectées sur Internet, vous pouvez essayer d'en trouver qui sont suffisamment mal protégées pour pouvoir éventuellement trouver une faille qui permettra de lancer un programme à distance et de le faire exécuter. Lancer le programme à distance, ça sera un vers. Alors, l'une des façons de se recopier et de se propager, et là, on vous a déjà en garde parce que ça existe beaucoup et c'est toujours à la mode, malheureusement, c'est les messages qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres. Donc, la messagerie électronique. Là, il y a le fameux ver « I love you ». Certains appellent ça un virus. À nouveau, c'est un ver. Dans le sens, c'est un programme autonome. Le ver, c'est pas le message lui-même. Le message « bonjour, vous me connaissez pas, mais je vous adore ». Eh bien, le message lui-même, c'est jamais qu'une suite de caractères qui pouvait s'afficher sans tellement de danger. Le danger, c'était qu'il y avait un document attaché qu'on pouvait penser être une image, donc c'est amusant, on peut cliquer dessus pour voir l'image. Eh bien, en fait, c'est un programme qui s'exécute, et ce programme, c'est un ver. Le ver, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va fouiller dans votre boîte aux lettres ou dans votre carnet d'adresses tous les destinataires avec qui vous avez été en contact un jour ou l'autre, et à chacun, il va envoyer le même message avec le même document attaché. Parmi tous les destinataires, il y en a pas mal qui vont cliquer, parce qu'en plus, ils vous connaissent, ils savent que ça vient de vous, ils vous font confiance, donc ils vous connaissent, et donc ils vont vous envoyer un message de plus. Et ce message, s'ils eux-mêmes l'exécutent, le document attaché, va se propager à nouveau, etc. Donc là, c'est le type de ver très classique, et c'est pour ça qu'on vous a tous dit, surtout ne cliquez pas sur un document attaché si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Mais ça, c'est encore le ver relativement visible. Pourquoi? Parce qu'il y a une action de l'homme. Il y a un message que l'on voit, et il y a une action qui a été de cliquer sur le document. Mais il y a beaucoup de vers aujourd'hui, qui n'ont pas besoin du tout d'action humaine pour cela, qui sont complètement automatisés, donc qui peuvent se télécharger à travers le réseau Internet sur une machine dans laquelle il y a une vulnérabilité d'un programme qui existe sur la machine et qui peut être exploité. Et là, on a des tas d'exemples de programmes qui peuvent être exploités, c'est-à-dire de vers qui ont existé déjà. Une des façons, sur lesquelles je vous mets en garde aussi, c'est celle qu'on disait tout à l'heure, ne cliquez pas sur ce site-là, il est dangereux. Eh bien, il peut y avoir, effectivement, sur certains sites web, des informations cachées qui vont vous télécharger un bout de programme qui peut être un ver et qui lui-même va utiliser une machine pour faire d'autres choses malveillantes. Alors les vers, j'ai dit qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus nombreux que les virus, il n'y a presque plus de virus, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des vers, et d'autre part, on est beaucoup moins au courant. Pourquoi? Parce que le monde a changé, le monde informatique a changé. Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, les vers et les virus étaient développés pour regarder comme je suis beau, comme je suis malin, j'ai réussi à infecter votre machine. C'était des vers, comment dirais-je, matador, montrer qu'on est puissant, qu'on est capable de développer un vers ou un virus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le but de ces gens-là, qui développent des choses malveillantes comme ça, c'est de gagner de l'argent. C'est plus le petit rigolo, l'adolescent qui, le soir dans sa chambre, crée un petit programme amusant qui va se propager partout. Non, c'est des criminels organisés. C'est des hackers qui vendent à des criminels organisés des logiciels pour attaquer le plus de machines possible dans le monde et surtout ne pas se faire voir. Donc, on va essayer de ne pas se faire détecter. Et c'est justement le sujet de la question suivante.
Quel enchaînement ?
Alors, je vais quand même un instant parler des dégâts liés à l'infection informatique. Ce qui est caractéristique, mais je crois que c'est un petit peu vrai aussi sur les virus biologiques, c'est qu'il y a deux périodes dans la vie d'un ver ou d'un virus. La période dite d'incubation, où là, on va essayer de se propager. Alors là, c'est pas la même chose que vous essayez. Enfin, les virus essayent de se multiplier en essayant de pas se faire trop remarquer. Là, la période, c'est de se propager sans se faire voir. Donc, se faire voir, c'est de rester aussi discret que possible. Donc, on va souvent pas faire noyer le réseau. On va envoyer un petit message, une petite attaque, une fois de temps en temps. Les envois de messages que j'ai fait tout à l'heure, un par seconde, ça sera peut-être ça la réalité. Donc, il ne faut pas que ça change le comportement habituel. Sans ça, on va s'en rendre compte. Sans perturbation du fonctionnement normal. Surtout, il ne faut pas le montrer à celui qui est infecté. Et puis après, cette période d'incubation, on peut éventuellement avoir des dégâts qui sont réalisés par une bombe logique. Et la bombe logique, au niveau informatique, ça va être d'abord, et c'était souvent ça les vers, faire des choses amusantes à l'écran. Du genre, bah, faire tomber les caractères de l'écran tout en bas de l'écran. C'est amusant. Bon. Écrire un mot, coucou, je vous ai attaqué, je vous ai. Bon. Ça, c'est amusant. Enfin, ça amuse celui qui l'a créé. Ceux qui lui qui le reçoit trouve ça moins drôle déjà. Mais ça, c'est pas très méchant. Plus souvent, il y aura de la modification ou de la destruction de programmes ou de données. On va effacer votre disque. On va modifier certaines tables de données. On va modifier certaines valeurs dans les fichiers Excel, dans les tables Excel. Donc vos calculs seront faux à partir de là. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles et amusantes pour l'attaquant toujours, pas du tout pour celui qui reçoit.
Alors Yves, je vous coupe deux secondes. Je regardais tout à l'heure un site de la sécurité gouvernementale et je lisais que maintenant les fichiers PDF peuvent être dangereux.
Dans certains cas, certains lecteurs de PDF, bon, apparemment c'est le cas d'Acrobat Reader, peuvent éventuellement avoir certaines failles que certains fichiers bien conçus spécialement pour vont pouvoir exploiter pour faire des choses probablement malveillantes, effectivement, sur les choses. Il n'y a pas que les fichiers PDF, hein, il y a des images, oui. Il y a des failles dans les systèmes Windows à une certaine époque.
Il est très commun, quoi, le PDF,
PDF est très commun. Il faut le mettre à jour comme les autres programmes que vous avez. Alors, j'ai pas fini parce qu'il y a pire que les modifications et destruction de programmes ou de données, ce qui peut être le cas pour votre fichier PDF.
Toujours plus.
Mais il y a pire, c'est les dégâts matériels. C'est-à-dire qu'il est possible, par logiciel, de faire des dégâts matériels. Il y a un cas très fameux, et celui-là, je suis sûr qu'il est authentique. Il y a beaucoup de légendes hein, sur les virus, les vers, etc. Il y a beaucoup de légendes dont je suis pas sûr que tout soit vrai. On a parlé dans les premiers vers, dans les premiers virus, il y avait un virus qui était capable de faire sauter les écrans d'IBM PC. Je crois qu'il n'y a jamais un vrai écran qui a explosé. Par contre, qui fait des taches dessus, qui soit moins clair, peut-être. Mais par contre, là, celui-là, le virus dont je parle, c'était le virus Tchernobyl en 1999. Il a eu lieu, effectivement, et il a fait des dégâts matériels sur beaucoup de PC, sur lesquels le coût a été important. En fait, c'était un ver ou un virus qui était capable de reprogrammer le matériel de votre PC, c'est-à-dire la mémoire morte de démarrage, la mémoire du BIOS, donc de rechanger cette mémoire, de l'effacer. Et sans cette mémoire, on ne peut pas démarrer de la machine. Et pire, pour pouvoir réécrire dans cette mémoire, il faut un programme qui se trouve déjà dans cette mémoire. Si ce programme est effacé, on ne peut pas réécrire dans cette mémoire. Donc même matériellement, on ne pouvait plus réécrire dans la mémoire qui avait été effacée. Et qu'en plus, dans la plupart des cas, cette mémoire est effectivement soudée sur la carte mère du PC. En gros, on ne pouvait même pas la dessouder parce que ces soudures sur les matériels pas très chers sont pas de très bonne qualité. Donc ça détruisait aussi la carte. Donc en fait, on pouvait mettre à la poubelle le PC correspondant. Et il y en a pas mal qui ont terminé comme ça.
Vous parlez de PC, hein ?
De PC. De machine PC.
PC.
Avec des cartes Intel et voilà. Avec du Windows dessus de préférence.
D'accord.
Voilà, donc pour en revenir au point que je disais, on peut reparler de détection, qui est donc un point important.
Voilà. avec Bernard Mariamé.
Bien, mais disons que là, pour rebondir un petit peu sur ce que Yves vient de vous raconter, c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à croiser un petit peu nos regards sur les virus, on a tout de même été frappé par le nombre de similitudes qui existaient entre les virus biologiques et les virus informatiques. Et si je reviens sur la précédente diapositive, Yves vous a parlé là de cette période d'incubation qui est évidemment, vous le savez tous, une caractéristique évidente des virus biologiques aussi. C'est même une des manières d'identifier un virus, c'est qu'en général, lorsqu'un virus rentre dans un organisme qu'il va infecter, il y a ce qu'on appelle même une phase, dans notre jargon de virologiste, il y a ce qu'on appelle une phase d'éclipse, c'est-à-dire que le virus disparaît. Il devient quasiment indétectable, en tout cas avec les techniques un petit peu anciennes, il est totalement indétectable. Et ça correspond à cette période d'incubation pendant laquelle le virus, justement, est en train de pousser ses pions, de s'installer, jusqu'au moment où il va être en situation de ressortir massivement, de se répliquer massivement et de pouvoir recréer de nouveaux virus qui, à ce moment-là, vont pouvoir se propager et aller infecter.
On est en pleine actualité, Bernard, je suis là.
Ah.
Bon, c'est en pleine actualité en fait, la grippe.
Bien sûr, non, mais les virus c'est toujours d'actualité de
bien
toute
sûr,
façon.
À longueur de journée. Mais ça s'explique vraiment là, on a vécu ce que vous expliquez. Là.
Exactement.
Un virus encore, mon Dieu, un virus informatique.
J'ai pas poussé.
Pardon, je vous ai trompé.
Heureusement, on a un spécialiste.
Oui. Alors, je sais pas si d'ores et déjà vous avez des questions peut-être ou pas. On verra tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous manifester, bien sûr. Voilà, on va reprendre le cours avec Bernard Mariamé.
Vraiment, totalement.
Merci Yves.
D'accord. Alors là, on va rentrer dans un aspect à la limite un petit peu plus pratique, parce que évidemment, depuis pas mal de temps, et surtout depuis que la notion de virus a fait son chemin et que c'est une notion qui est maintenant tout à fait acceptée, hein, mais les virus, c'est pas des choses qui sont extraordinairement anciennes. Les virus ont un peu plus... ont un petit peu moins de 100 ans, donc ce ne sont pas des choses qu'on connaît quand même depuis tellement longtemps.
Comme ils existaient avant, c'est que depuis 100 ans qu'on les connaît.
On les connaît, bien entendu. Et donc sur le plan clinique, bien entendu, comme les virus sont évidemment responsables de toute une série de pathologies, plus ou moins graves d'ailleurs, pour pouvoir identifier ces pathologies, il fallait identifier l'agent responsable. Et la première chose que l'on a pu faire, c'était de détecter les anticorps que l'organisme produit. En fait, vous le savez aussi, on a très peu de moyens thérapeutiques de lutter contre les virus. Et d'une manière générale, il faut bien voir que si les êtres vivants, d'une manière générale, ont survécu au virus, l'évolution a développé toute une série de systèmes qui vont leur permettre de contrer ou de se débarrasser finalement totalement de ces virus. Et bien entendu, la première barrière que l'on a identifiée, ce qui n'est pas la première barrière en fait qui va se mettre en place lors d'une infection, mais la première barrière que l'on a identifiée, ce sont ces fameux anticorps. Et quasiment tous les organismes supérieurs, lorsqu'ils sont confrontés à un corps étranger qui pénètre dans leur organisme, vont être capables de développer ces molécules, ce sont des protéines, extraordinairement sophistiquées dans la mesure où elles ont deux sites que l'on appelle les sites actifs, et ces sites sont capables de reconnaître spécifiquement le corps ou un morceau du corps étranger qui est rentré dans l'organisme. Et donc nous sommes capables de produire, nous humains en tout cas, mais c'est vrai pour tous les animaux, nous sommes capables de produire une quantité extraordinaire de ces anticorps différents, de manière à pouvoir reconnaître tous les organismes étrangers, et même ceux qu'on n'a jamais vus auparavant, eh bien on va pouvoir développer des anticorps qui vont être capables de reconnaître ces corps étrangers, et éventuellement, par d'autres mécanismes, de les neutraliser.
On peut rapprocher ça des pare-feux informatiques presque.
Disons, je dirais que c'est pas un mécanisme directement comparable. Le pare-feu, c'est une barrière. Là, c'est un système qui va être produit par l'organisme, qui va diffuser dans le sang et qui va aller piquer et pêcher les corps étrangers dans le sang et les amener dans des sites où ils seront détruits. Et donc, pour identifier un virus, eh bien, la première manière a été d'identifier non pas le virus, mais les anticorps que l'organisme a produits en réponse à ces virus. Alors ça c'est bien, mais c'est un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que, vous le savez bien, quand vous êtes infecté par un virus, ben, pareil, ces anticorps n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il y a un certain temps de latence, de sorte que la détection des anticorps ne permet pas un diagnostic extrêmement précoce. C'est très pratique pour savoir si vous avez été infecté par un virus, parce qu'en général, ces anticorps persistent pendant pas mal de temps. On garde ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. Et donc, c'est très pratique 6 mois plus tard pour savoir si vous avez rencontré un virus, parce que 6 mois plus tard, vous aurez toujours des anticorps détectables dirigés contre ce virus. Mais ça a tout de même rendu énormément de services et ça a permis d'identifier, évidemment, sur le plan clinique, pas mal d'infections. Plus récemment, on s'est mis à détecter des morceaux du virus lui-même. Alors, dans un premier temps, comme la chimie, finalement, des protéines et surtout la manipulation des protéines a progressé beaucoup plus rapidement que la détection et la chimie de l'information, dont le support sont les acides nucléiques, ADN ou ARN, eh bien, on a essayé de détecter les protéines du virus. Alors, ça aussi, on a des techniques qui marchent assez bien. C'est bien, ça permet de détecter très vite par contre, parce que là on peut détecter dès que le virus est là, on n'a pas besoin d'attendre la réponse de l'hôte, on peut détecter véritablement l'infection virale elle-même. Le problème, c'est que justement, d'abord on a cette phase d'éclipse dont je vous ai parlé, qui fait que le virus disparaît pendant un petit moment, où là on ne voit quasiment rien, en tout cas à ce niveau-là, donc c'est pas tellement pratique. Et puis surtout, ce sont des techniques, même si elles ont fait beaucoup de progrès, ce sont des techniques qui restent relativement peu sensibles. Donc il faut une infection relativement massive, et en général c'est jamais bon quand on arrive à ce que le virus ait pu se développer suffisamment pour qu'on arrive à détecter les protéines. Donc c'est finalement, encore une fois, des techniques qui ont rendu des services, mais qui ont été totalement maintenant dépassées par cette nouvelle génération de techniques qui va s'intéresser non plus à la détection des anticorps ou des protéines, mais de l'information génétique du virus lui-même. Alors, la grande technique, une technique qui est apparue dans les années 80, qu'on appelle la PCR, pour Polymerase Chain Reaction, qui est une technique qu'on peut faire in vitro, et qui, in vitro, va consister simplement à... le principe est extraordinairement simple. En fait, à amplifier, à faire répliquer, à recopier un morceau d'ADN de cette information qui nous intéresse, on va la répliquer, et comme ce processus est exponentiel... Après un premier cycle, à partir d'une molécule, on va en avoir 2, puis 4, puis 8, puis 16. Et avec 25 ou 30 cycles de ce type-là, on arrive à détecter une information qui est présente au départ en toute petite concentration. Et actuellement, en poussant un petit peu les techniques et quand on se débrouille un petit peu dans ce domaine, eh bien on peut monter un test dans lequel on est capable de détecter une molécule de l'information génétique. Et ça, c'est extraordinairement intéressant, parce que finalement, la seule chose du virus qu'on peut détecter tout le temps, dès qu'il... J'ai repoussé sur le mauvais bouton. Sur quoi il faut repousser, excusez-moi. Je dois cliquer sur le fond. Ah, d'accord. Mais il faut la souris, non ? Voilà, d'accord, merci. Donc finalement, le seul composant du virus qui va être présent tout le temps, même pendant la phase d'éclipse, et même si le virus persiste, même longtemps après que la réponse immunitaire ait essayé de se débarrasser du virus, en tout cas dans le cas des virus dont justement on ne se débarrasse pas totalement, eh bien c'est le matériel génétique. Et ce matériel génétique, on peut le détecter avec une immense sensibilité avec ces tests que l'on appelle donc les tests de PCR. Et d'ailleurs, si vous regardez des séries télévisées comme Les Experts, vous verrez que la PCR, même en médecine légale par exemple, est devenue l'outil de base pour détecter des traces absolument infimes de ce matériel génétique. Ça, c'était le plan clinique. Mais comme je vous l'ai dit, si on a survécu aux infections virales, on y a survécu en l'absence de médicaments, puisque même maintenant, nous n'avons qu'une batterie extraordinairement limitée de molécules efficaces contre des virus. Et nous avons survécu parce que, justement, les organismes vivants ont certainement évolué en parallèle avec les virus qui les agressaient. Et chaque fois que le virus parvenait à passer une barrière, l'organisme, pour survivre, était obligé d'inventer un nouveau système, et ainsi de suite. On a, en fait... Quand on s'intéresse à ce genre de mécanisme, on se rend compte qu'il y a une succession de barrières, de défenses, que le virus contourne, et l'organisme crée de nouvelles contre-défenses. Et ici, par exemple, vous avez un mécanisme qui est tout à fait extraordinaire. C'est un mécanisme qui permet de reconnaître le matériel génétique qui est sous forme d'ARN. Une des composantes de la diversité des virus dont je ne vous ai pas parlé, je vous ai parlé uniquement de la taille, qui est extrêmement variable, de la quantité d'informations qu'il transporte. Mais en plus de ça, ce qui n'est pas le cas dans les autres organismes vivants, eh bien le support de cette information génétique peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN, et cet ARN peut être soit de l'ARN simple brin, soit de l'ARN double brin. Ça, c'est pour les gens un petit peu plus au courant de la situation.
Est-ce qu'on peut juste définir ARN, ça signifie
L'ADN, c'est donc l'acide déoxyribonucléique. Oui. L'ARN, c'est un acide nucléique qui, chez nous, sert essentiellement, il sert à des tas de choses, mais il sert essentiellement de messager. C'est sous forme d'ARN que va être copié l'ADN, et c'est cet ARN intermédiaire qui lui-même va être traduit après en protéines. Donc ADN, ARN, ce sont des acides nucléiques. La structure chimique, bon, elle est évidemment très différente, mais c'est la même famille de molécules. Ce sont des molécules linéaires, donc des enchaînements de ce qu'on appelle des bases. L'ADN est double brin, l'ARN est simple brin. Donc c'est double brin, ça veut dire qu'on a deux molécules qui sont appariées et qui restent appariées ensemble, tandis que l'ARN, c'est une seule de ces molécules donc qui se promène. Mais l'ARN peut lui-même s'apparier sous forme de double brin comme l'ADN. Et donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que un des mécanismes qui a été développé pour reconnaître le virus consiste justement à reconnaître cet ARN. Et c'est une chose tout à fait extraordinaire, parce que non seulement la molécule qui est ici, qui s'appelle RIG1, est une molécule qui ne va pas reconnaître de l'ARN, parce que le problème énorme que nous avons, c'est que ce compartiment-ci, puisque ici je vous ai très schématiquement différents compartiments d'une cellule, vous avez la membrane sur laquelle vient s'attacher le virus. En dessous de la membrane, vous avez un compartiment, qu'on appelle le cytoplasme, cytosol. Puis vous avez la membrane nucléaire et le noyau. Et le problème de la reconnaissance de cet ARN ici, c'est que cette région-là de notre cellule est bourrée d'ARN. Parce que nos propres ARN, ceux qui sont fabriqués dans le noyau à partir de nos gènes pour aller faire les protéines dont nous avons besoin, en fait, ces ARN vont être traités, vont être traduits dans ce compartiment-ci. Donc, il ne suffit pas de reconnaître les ARN, parce que ce compartiment, encore une fois, il est bourré de nos propres ARN. Eh bien, nos mécanismes de détection des virus permettent, ont compris et ont discriminé, sont capables de discriminer entre un ARN viral et nos propres ARN, tout simplement parce que le bout de cet ARN est très légèrement différent entre nos ARN et ceux du virus. Et c'est probablement pas un hasard, il est très probable que nos ARN qui sont modifiés sur cette région qu'on appelle la région 5', sont modifiés justement pour permettre à nos mécanismes antiviraux de discriminer entre nos propres ARN et les ARN des virus infectants. Une fois que cette molécule est activée, ce qui va passer, il va y avoir toute une cascade extrêmement compliquée d'événements qui va conduire finalement, avec ce que nous en appelons dans notre jargon, on va transduire un signal qui va aller de cette molécule jusqu'au noyau, et le noyau où se trouve notre information génétique, et cette activation va conduire à l'activation de plusieurs dizaines, probablement plusieurs centaines de gènes, dont l'activation va en fait modifier totalement l'état de la cellule et va rendre cette cellule totalement réfractaire à la réplication des virus. Et c'est ce moyen qui est utilisé justement, puisque la cellule va être bloquée finalement dans cet état, on va séquestrer le virus dans cette cellule et faire en sorte que de toute façon il ne puisse plus s'y répliquer et surtout plus aller infecter d'autres cellules et partant aller infecter d'autres individus. Je crois que là on va repasser à l'informatique.
Oui. Sur la prévention, Yves.
Oui, j'ai voulu mettre une fiche sur la prévention, parce que c'est ce qu'il faut faire avant qu'il y ait un virus, et, ou un verre informatique. Et en fait, le problème, c'est que on verra que c'est beaucoup plus difficile de survivre à un verre ou un virus informatique que dans le cadre de la biologie. Et donc, il vaudrait mieux d'abord se prévenir, d'abord essayer d'empêcher de se faire contaminer. La première technique, c'est celle dont on a parlé, c'est une isolation. C'est-à-dire, si on n'est jamais en contact avec aucun autre programme étranger, on a des chances de survivre parce qu'on aura du mal à vous imposer d'exécuter quelque chose si vous n'êtes pas en contact avec. L'isolation totale est aujourd'hui difficile. On n'a pas beaucoup d'ordinateurs qui ne soient pas connectés à Internet. Donc aujourd'hui, ça devient très difficile. Alors, il y en a, il faut le faire. Par exemple, sur une centrale nucléaire, on n'a pas vraiment besoin de brancher une centrale nucléaire sur Internet. Donc ça serait même un danger. Donc il vaut mieux pas le faire. Néanmoins, ça arrive de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plein de choses intéressantes sur Internet.
Oui, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent.
Il y a beaucoup de systèmes, on pense qu'ils ne sont pas branchés sur Internet, et en fait, ils le sont indirectement.
D'accord.
Ne serait-ce que parce que les opérateurs viennent avec leur portable un jour, voir leur téléphone portable, et se reconnectent sur le même ordinateur qui sert à contrôler la centrale nucléaire, et qui leur sert chez eux à jouer sur Internet ou autre chose. Donc indirectement, il peut y avoir ce type de contact, et on a vu des cas d'infection, y compris de systèmes de... Alors, pas vraiment les systèmes les plus urgents dans une centrale nucléaire, mais certains systèmes de contrôle nucléaire qui ont été atteints par des virus aux États-Unis.
Merci.
En France, à ma connaissance, ça
oui,
n'a pas
bon,
eu lieu.
Oui, d'accord, ça rassure.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit tellement plus rassurant. Oui, oui. Ça a eu lieu, il y a eu un cas de... Le blackout qui a eu lieu, je crois, en 2005, à l'été 2005, sur tout le nord-est des États-Unis et une partie du Canada... L'une des raisons, c'est la raison essentielle, c'est parce qu'il y a eu une surchauffe de certains câbles qui ont fait qu'il y a eu des disjonctions. Mais le système de secours automatique qui aurait dû se déclencher n'a pas été déclenché à cause d'un verre qui a bloqué certains des ordinateurs qui ont empêché de réagir suffisamment vite, disons. Donc c'est d'où le blackout, la conséquence que ça a.
Et ce verre venait d'où, on le sait aujourd'hui ou pas ?
Venait d'Internet, c'était l'un des nombreux verres qui existent aujourd'hui sur Internet. C'était pas une attaque directe, volontaire contre les centrales nucléaires. D'accord. C'était l'un des verres multiples qui existaient aujourd'hui. Alors je crois que c'était Slammer, mais bon, ça vous aidera pas beaucoup si je vous dis que c'était celui-là. Oui. J'en suis même pas sûr à 100%. Donc une isolation totale, se couper du monde, aujourd'hui c'est un peu difficile et au fond si on achète un ordinateur et qu'on le met chez soi, c'est pas pour seulement jouer localement, c'est aussi pour se connecter à Internet et en profiter. Donc pas d'isolation totale. Alors on peut installer ce qu'on appelle les pare-feux, c'est-à-dire des logiciels qui ne vont laisser passer que certaines informations, que certains types de messages, d'informations, de contacts. Mais qu'est-ce que vous allez mettre comme contact ? Quelles sont les informations que vous voulez faire passer ? Justement, les courriers électroniques. Et le courrier électronique est l'un des vecteurs, comme on l'a vu, pour les verres. Vous allez justement laisser passer ce que vous allez lire sur Internet. Et on a vu que certains sites malveillants peuvent avoir des logiciels malicieux. Lorsqu'on consulte ces sites, peuvent éventuellement se télécharger sur votre machine. Donc, en fait, l'isolation est une technique assez inefficace parce qu'on a besoin justement des connexions qu'on veut faire. L'une des solutions qui est probablement la plus efficace aujourd'hui, c'est d'utiliser des systèmes moins vulnérables que d'autres. C'est comme les voitures. On vole plus certains types de voitures, eh bien, vaut mieux avoir une voiture qu'on vole moins souvent. Ou stationner à côté d'une voiture qui aura plus tendance à se faire voler que la sienne. Donc,
les bons conseils du docteur Desbart, merci. J'ai bien gardé là, ça va ?
C'est un peu la même chose pour les ordinateurs. Vaut mieux utiliser des systèmes un peu moins courants, comme les Macintosh ou les Unix. Les PC avec Windows dessus, il y a beaucoup plus de verres de virus pour les PC que pour les Macintosh ou pour les Unix. Il y en a quelques-uns, il y en a vraiment très très peu. Moi, sur mon Mac, j'utilise un Mac, personnellement. Sur mon Mac, j'ai pas d'antivirus. J'en ai pas besoin. Et pourtant, je suis tout le temps connecté sur Internet. J'ai jamais eu à mon
premier au bureau. Au bureau particulier, votre bureau, non ?
Non, mais au bureau comme chez moi, j'ai la DSL, c'est le même ordinateur. J'emmène mon portable partout, il est là dans mon sac.
D'accord.
J'ai jamais eu de virus sur mon Mac, j'ai pas besoin d'antivirus.
D'accord.
Ça, c'est aujourd'hui. Demain, quand même, les chercheurs en informatique et en sécurité informatique essayent de faire des choses mieux que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, les systèmes seront mieux protégés. Et l'une des façons de les protéger, c'est d'utiliser du matériel. Là, j'ai parlé du système TPM, qui est un petit chip qu'on met dans les ordinateurs, qui s'appelle le Trusted Platform Module, qui, en fait, est déjà dans la plupart des ordinateurs, mais on ne le sait pas. Il est très probable que sur ce PC, il y soit. Sur la plupart des PC portables, aujourd'hui, il y est. Sur beaucoup de PC de bureau aussi. C'est un module qui, normalement, est là pour faire du chiffrement, pour vérifier des signatures, et qui ne permettra d'exécuter un programme que s'il est signé, qu'il n'a pas été modifié, et que la signature est reconnue comme étant valide. Donc tous les programmes qu'on le charge, il faudra qu'ils soient signés correctement pour le faire. L'inconvénient, c'est qu'on pourra exécuter que les programmes qui auront été signés, et donc des programmes qui ont été signés par qui ? Par Microsoft, par un fournisseur de programmes. Développer son propre programme soi-même, ça sera plus difficile d'obtenir une signature dessus.
Ça fait penser à l'agriculture avec Monsanto et toutes les graines.
C'est peut-être assez similaire là-dessus. Alors, l'avantage, c'est que les virus eux-mêmes, il n'y en aura plus.
Oui.
Les vers, c'est même pas sûr, parce qu'on trouvera peut-être le moyen de faire signer un logiciel par quelqu'un, alors qu'il ne faudra peut-être pas le signer. Donc, je ne suis pas sûr que ça éliminera complètement, mais surtout, je ne suis pas encore convaincu que cette technique va se généraliser facilement. Ça ne s'est pas généralisé alors que ça existe depuis le début de Vista, par exemple. Donc, depuis 4 ou 5 ans, la technique existe et personne ne l'utilise. Très peu de gens l'utilisent. On peut espérer que ça se développe dans l'avenir. Mais le dernier point, c'est surtout d'être prudent. Hein. C'est comme mettre sa main dans sa bouche quand on éternue. Eh bien, c'est un peu la même chose, se laver les mains. Et l'être prudent, c'est de ne pas ouvrir les documents attachés à des mails si vous n'avez pas confiance. C'est de ne pas télécharger des logiciels sur des sites dans lesquels vous n'avez pas confiance. J'ai dit qu'il y avait très peu de logiciels malveillants sur Macintosh. Il y en a un relativement récent qui a été distribué par des copies pirates de logiciels. Donc, si vous alliez chercher sur BitTorrent un logiciel d'Apple sans le payer, eh bien, il y avait justement ce verre malicieux sur les Macintosh. C'est l'un des très rares cas d'attaque qu'il y a eu sur Macintosh. Donc, ça, c'est la prévention. Alors, on a aussi quand même des techniques de détection. C'est tout ce qu'on appelle les antivirus. Et donc, ça détecte surtout des vers. Aujourd'hui, il y a très peu de virus, comme j'ai déjà dit. Et les deux moyens de détection qui existent, c'est soit par signature, où on va rechercher dans la mémoire ou sur les disques des suites d'octets qui sont caractéristiques d'un virus ou d'un ver. Et ça, c'est très similaire aux techniques biologiques. On recherche dans l'ADN des séquences qui sont caractéristiques du ver ou du virus. Donc ça marche assez bien, et c'est comme ça que tous les antivirus, la plupart des antivirus fonctionnent. Ça marche assez bien si ce n'est pas un nouveau virus. Il faut que le virus ait déjà été repéré par les marchands d'antivirus pour pouvoir les mettre dans leur base de signature, que cette base soit mise à jour suffisamment fréquemment, et à ce moment-là, il ne détectera pas un virus nouveau, un virus qui n'a pas encore été connu, et il n'y aura pas de signature dans votre base, donc vous ne le détecterez pas. Et le second point, c'est que ça devient de plus en plus difficile, parce que, un peu comme dans la biologie aussi, on a des virus furtifs ou mutants, c'est-à-dire des virus qui, en fait, changent leurs caractéristiques tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va créer une copie, on va en fait chiffrer la copie, utiliser du chiffrement, donc des techniques de code cryptographique qui vont modifier le code du virus ou du ver, et la clé sera transmise en même temps. Donc il faudra, au moment de l'exécution, utiliser la clé pour déchiffrer le code du virus, mais chaque exemplaire du virus, ils sont chacun différents. On ne pourra pas les reconnaître.
Est-ce qu'il y en a un en particulier de virus biologique qui correspond à ce mécanisme ?
Non, chez les virus biologiques, on n'a pas ce mécanisme-là, mais on a un mécanisme extraordinairement similaire chez certains parasites. Oui. Mais chez les virus biologiques, non.
Lesquels, par exemple ?
Chez les trypanosomes, on a exactement ce système-là. Chez les trypanosomes, qui est un organisme beaucoup plus gros, c'est encore beaucoup plus gros qu'une bactérie, c'est un parasite, c'est ce qu'on appelle un eucaryote, donc dont les cellules sont beaucoup plus proches des nôtres. Mais pareil, quand il rentre dans l'organisme, il est détecté par l'organisme comme un corps étranger. Donc l'organisme va essayer de s'en débarrasser en fabriquant des anticorps. Et la stratégie qu'a développée ce parasite, c'est qu'il va laisser venir les anticorps, et le système immunitaire va presque gagner, parce que grâce à ces anticorps, il va éliminer la grande majorité des parasites. Mais par un signal qu'on ne connaît pas, lorsque la charge en parasite va devenir extrêmement faible, eh bien, le parasite va arrêter de fabriquer la protéine dont il est recouvert, qu'on appelle la protéine de manteau, et il va aller chercher dans sa bibliothèque de gènes, dans laquelle il a toute une série de gènes codant pour différentes protéines de manteau. Il va arrêter la production du premier gène, et il va passer au deuxième gène. Et on va donc avoir une nouvelle génération de parasites, qui sera génétiquement parfaitement identique, mais dont l'extérieur va devenir totalement différent, parce qu'il va se recouvrir non plus de la première protéine, mais d'une deuxième protéine qui ne sera plus reconnue par les anticorps. Et il va faire un nouveau cycle de cette manière, il va pouvoir se multiplier, jusqu'au moment où le système immunitaire va reconnaître, tiens, il y a un nouveau truc là, il va refaire des anticorps contre cette deuxième protéine, et le cycle va recommencer. Quand on aura presque éliminé cette deuxième vague, le virus va aller, le parasite va aller chercher le troisième gène, et ainsi de suite. Donc c'est un mécanisme un petit peu, mais c'est pas chez les virus, ça c'est chez les parasites.
Voilà, donc ça c'est les virus ou les vers mutants en informatique. La furtivité c'est autre chose. La furtivité c'est lorsque le virus est actif, c'est-à-dire lorsqu'il est dans la mémoire et en train de s'exécuter, eh bien il va modifier les programmes de base de l'ordinateur, l'OS, pour que on ne puisse plus, lorsqu'on va lire les zones où il y a le virus, on lira comme s'il n'était pas là. Donc lui, à la volée, il va corriger sa trace, son image qui est dans la mémoire, pour que ce qu'on lira, au lieu que ça soit la vraie mémoire, ça sera comme s'il n'était pas là, la mémoire qu'il y aurait s'il n'y avait pas le virus. Donc là, c'est encore un virus encore plus vicieux, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il se cache derrière un miroir.
Mais ça, on a chez les virus. Oui.
Excusez-moi. Je voulais savoir justement le VIH, c'est pas un virus justement qui est mutant, qui change.
Oui, tout à fait.
C'est pas similaire.
Tout à fait. C'est la plupart des virus dont l'information est de l'information ARN sont des virus relativement peu stables. Parce que pour répliquer l'ARN, les enzymes qui répliquent cet ARN sont des enzymes qui n'ont pas ce qu'on appelle, nous, encore une fois, dans notre jargon, une activité correctrice. Et donc, l'enzyme qui va répliquer l'ADN fait beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs sont à la base de toutes les mutations et donc d'une évolution très rapide des virus. ARN particulièrement. Les virus à ADN sont beaucoup plus stables dans le temps.
Et donc les virus furtifs, là, ceux qui se cachent dans la...
Mais là, pour reprendre... Tiens, je vais te prendre là. Pour reprendre mon exemple ici... Dans ce cas-ci, voilà, très typiquement dans ce cas-ci, ça c'est un mécanisme de défense qui fonctionne extraordinairement bien. Mais, comme je vous l'ai dit, les virus, quand ils sont confrontés à un mécanisme de défense aussi extraordinairement efficace, ils trouvent une contre-défense. Et par exemple, dans le cas du virus de la grippe, une des contre-défenses, c'est justement d'aller cacher cette extrémité-là, puisque c'est celle-là qui est reconnue et qui est différente entre l'ARN viral et nos propres ARN. Et donc, ce que le virus va faire, il a une protéine qui va aller piquer aux ARN de la cellule hôte la structure que la cellule hôte met sur l'extrémité 5', que l'on appelle la coiffe, et il va détourner, il va piquer les coiffes des ARN de la cellule hôte qu'il va mettre sur ses propres ARN. Et à partir de là, cet ARN viral ne sera plus reconnu par le système, et le virus va se développer. C'est exactement une stratégie furtive de la même manière que certains virus informatiques.
Donc, c'est cette première classe dont j'ai parlé, détection par signature. La deuxième classe, pour les signatures, donc il faut faire des mises à jour fréquentes. Les bons outils de mise à jour, Symantec ou autre, c'est presque tous les jours, il y a une nouvelle version qui est téléchargeable automatiquement. Il vaut mieux le mettre à jour très vite.
Ça, il faut le faire.
C'est quasiment invisible parce que c'est installé sur votre machine. Tous les jours, ou lorsque vous la démarrez ou lorsqu'elle se réactive, elle va aller relire sur un site comme celui de Symantec si par hasard il n'y a pas de mise à jour. Et souvent, il y en a.
Oui.
Donc, il faut avoir des antivirus qui se mettent à jour très fréquemment. Alors, c'est pas tout à fait la seule solution parce qu'il y a une autre méthode pour détecter des virus. Ça n'est plus par une signature, donc qui est tout à fait caractéristique de la chaîne d'octet du virus, mais par l'analyse du comportement. Observer des symptômes. Donc là, on revient à un niveau plus macroscopique, je dirais, où on va regarder, un programme qui fait des choses bizarres, c'est peut-être un virus. Donc, par exemple, un programme qui irait modifier un autre programme, c'est quand même rare. Et donc, ça, c'est facile à détecter. Mais c'est l'un des rares exemples qui est facile à détecter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple faire des modifications mémoire ou autres, qui sont ce que font tous les programmes. Donc, on ne peut plus distinguer ce qui est spécifique de quelque chose de malveillant, comme celui-là, modifier un programme, que quelque chose qui est normal dans l'exécution normale d'un programme habituel. Alors, il y a quand même une troisième voie que je n'ai pas mise spécifiquement, parce qu'elle est plus difficile à expliquer, mais qui est beaucoup plus proche de la technique pour lutter contre les virus. C'est effectivement de détecter ce qui est moi, moi être vivant, de ce qui n'est pas moi, de ce qui est un être extérieur qui est différent. Et donc là, il y a une phase, c'est des outils de détection d'intrusion particuliers, il y a une phase qui est d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'un programme normal. Et donc, pendant tout un temps, on va laisser tourner l'ordinateur, faire tourner beaucoup d'informations, beaucoup de programmes normaux, et on va enregistrer les séquences d'instructions d'appel système, par exemple, qui sont les caractéristiques de cette exécution-là. Et puis, lorsqu'on aura fait exécuter tous les programmes pendant longtemps avec beaucoup de données, eh bien, on aura enregistré toutes les séquences valides. Et chaque fois que dans l'exécution d'un programme, on trouvera une séquence qu'on n'a pas vue précédemment, à ce moment-là, on dira, c'est peut-être dangereux, on arrête. Donc là, on se rapproche peut-être encore plus des techniques.
Tout à fait. C'est typiquement une défense de type système immunitaire. Et j'ai envie de te poser la question tout de suite, parce que dans le système immunitaire, on va être confronté exactement à cette phase d'apprentissage. Mais pour l'ordinateur, j'imagine que ça ne peut marcher que si on fait tourner le logiciel sur un ordinateur qui n'est pas déjà infecté. Sinon, il va reconnaître comme lui les virus.
Donc ça veut dire apprendre beaucoup de programmes. L'une des solutions, c'est faisable, c'est faire par les fabricants de programmes. C'est-à-dire les fabricants de programmes vont enregistrer tous les comportements normaux de leur programme et vont distribuer une espèce de carte génétique de toutes les séquences normales. Et puis on les mettra toutes ensemble, toutes ces cartes génétiques, et puis sur l'ordinateur normal, dès qu'on trouvera une séquence qui ne correspond pas à quelque chose qui aura été déclaré comme bon, comme valide au départ, eh bien on arrête le système. Et c'est effectivement basé sur, c'était développé par des informaticiens, basé sur cette idée immunitaire de la biologie. Aujourd'hui, c'est pas très efficace quand même. Aujourd'hui, c'est pas totalement efficace. Il y a beaucoup de fausses alarmes, beaucoup on détecte des programmes, enfin des séquences qu'on n'a jamais vues, mais qui sont quand même pas des vraies attaques. Et à l'inverse, il y a des attaques qui se comportent exactement comme des programmes normaux, et celles-là, on les voit pas non plus. Donc, c'est le dernier point que je voulais mettre, c'est qu'il y a un rapport entre les fausses alarmes et la non-détection. C'est déjà vrai pour la signature, mais c'est bien sûr beaucoup plus vrai sur l'analyse de comportement. Et là, il y a un risque donc d'avoir trop de fausses alarmes, et on n'y fait plus attention. Ou bien, à l'inverse, il y a des cas où on les détectera pas parce qu'on a réglé la sensibilité de ce détecteur trop bas pour ne pas avoir tout le temps des fausses alarmes. Et donc là, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même pas parfait. On n'est pas très satisfait de ces techniques-là. C'est celles qui existent et elles sont quand même relativement inefficaces. Enfin, pas totalement efficaces. Pas à 100% efficaces.
Il y a encore du travail.
Il y a encore du travail. Et le pire, c'est le traitement. Les maladies, on sait à peu près les traiter. Les traitements des virus ou de vers informatiques sont... Alors je suis désolé parce que faut vous rendre compte qu'il y a beaucoup de chances que vos ordinateurs soient déjà infectés, mais les réparer, c'est très difficile. Les antivirus sont susceptibles de réparer s'ils viennent de détecter un virus et que surtout il n'y a rien d'autre qui s'est passé d'anormal sur votre machine. Et donc si votre antivirus vous dit « j'ai détecté le configure B72 », eh bien, est-ce que vous voulez que je répare ? Ben déjà, il faut se poser la question. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de réparer. Mais enfin, vous pouvez dire oui et puis espérer, si c'est pas trop grave ce que vous avez sur votre ordinateur, que ça se passera bien. Vous avez de bonnes chances que ça se passe bien cette fois-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si en fait votre antivirus a d'abord détecté un virus, mais il y en a aussi un autre qu'il a détecté ou qu'il détecterait s'il allait plus loin. Mais là, lequel il va corriger ? En corrigeant l'un, il va peut-être détruire des données qui ont été modifiées par l'autre et qui auraient pu être sauvées ou autre. Donc c'est pas toujours la réparation automatique n'est pas toujours très très intéressante.
Je crois qu'il y a une question là-bas.
Excusez-moi, mais quel serait l'intérêt de détecter un virus si c'est pas pour le réparer ?
Ben au moins d'essayer de remettre votre machine dans un état correct. Et ça c'est l'autre solution, hein. C'est la solution générale. Maintenant, elle est pénible. Ça a dû m'arriver une fois dans ma vie quand même de le faire. C'est parce que j'avais un PC à l'époque. typiquement, ça prend au moins une journée quoi, pour une machine professionnelle qui est utilisée à beaucoup de choses. Alors, ça consiste en quoi la solution générale ? Ben, ça consiste à reformater les disques, d'effacer tout ce que vous avez comme information, avec précaution parce qu'il faut les reformater en redémarrant la machine depuis une source sûre, donc depuis le CD d'installation système. Et avec ce CD, il faut d'abord reformater complètement vos disques. Une fois que vous avez reformaté vos disques, vous réinstallez d'abord le système, puis tous les logiciels que vous avez achetés, et donc vous avez bien pris soin de garder une copie, de garder les CD d'origine, etc. À ce moment-là, vous pouvez les réinstaller. Et une fois que vous avez réinstallé vos logiciels, vous pouvez réinstaller vos données, à condition de les savoir sauvegarder avant. Donc il faut faire des sauvegardes régulières, je suppose qu'on vous l'a déjà dit, de vos disques, de vos données, des données essentielles que vous avez, les sauvegarder sur des CD ou les sauver sur d'autres disques ou sur des sites en ligne. Et c'est pour ça que j'ai oublié, mais je reviens en arrière, si vous détectez une anomalie, la première chose c'est d'essayer de sauver ce que vous pouvez encore sauver. C'est-à-dire d'essayer de sauver les données essentielles. Les photos de l'anniversaire du petit là, que vous avez encore sur votre ordinateur et dont vous n'avez pas encore fait de sauvegarde, peut-être que ça vaut la peine de les sauver quelque part avant de faire tout ce que je dis derrière. Et puis après, donc, il y a plein de paramètres qui n'auront pas été sauvés automatiquement sur votre connexion ADSL, sur plein de choses qu'il faudra remettre à la main. Bon, tout ça, ça peut prendre du temps et donc c'est assez pénible. Oui, je suis désolé. Il y avait une question.
Oui, vous avez dit à plusieurs reprises que vous conseillez d'avoir une machine de type Macintosh, Linux, etc., plutôt que Windows.
Oui.
Est-ce que c'est uniquement la raison de cette moindre vulnérabilité? Est-ce que c'est uniquement parce que ce sont des machines moins répandues, etc.? Ou est-ce qu'il y a effectivement un problème de conception avec Windows qui le rend vulnérable? Parce que il me semble que c'est important de répondre à, enfin, si on peut, de répondre à cette question, parce que d'abord, si tout le monde suit votre conseil, est-ce que la sécurité informatique sera améliorée, ou est-ce qu'il y aura des nouveaux vers qui vont arriver? Et puis deuxièmement, peut-être qu'un jour Windows deviendra un peu moins vulnérable. Je parle pas des histoires de TPM, parce que j'ai l'impression que ça, c'est la mort de tout ce qui est logiciel libre, etc. Si ça se
simplifie. Je vais essayer, votre question est très intéressante, je vais essayer d'y répondre, c'est un petit peu compliqué. Alors d'abord, c'est vrai que les PC sont les plus courants et donc sont le plus les cibles, et c'est normal. Un verre a plus de chances de se multiplier sur une machine où il y a beaucoup de gens. C'est un peu aussi pareil dans les verres biologiques. Et si on a plus de contacts avec plus de gens, il y a plus de chances de se multiplier. Donc c'est l'une des raisons. L'autre raison, vous avez raison, le Unix ou Macintosh. Macintosh est basé sur un noyau Unix, hein, donc c'est essentiellement la même chose. Ce sont des machines qui sont mieux protégées, sur lesquelles la conception de protection mémoire, de protection des fichiers, etc., est un petit peu mieux faite. C'est pas parce que les gens de Microsoft sont bêtes, c'est parce qu'ils ont la nécessité de continuer à exister avec des logiciels qui ont été développés depuis très longtemps, et que le choix de Microsoft qui n'a pas été fait par Apple, ça a été de garder une continuité de possibilités d'exécution. Et donc, on est encore capable aujourd'hui d'exécuter des programmes qui ont été développés il y a 20 ans pour Microsoft. Sur Macintosh, c'est un petit peu plus difficile, même si on peut encore le faire dans beaucoup de cas. Mais ça devient quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que donc Macintosh a choisi de changer, Apple plutôt a choisi de changer de génération d'OS il y a quelques années, de système d'exploitation il y a quelques années, et qu'ils ont choisi justement un noyau Unix qui est lui-même mieux protégé. C'est pas le choix qui a été fait par Microsoft au départ, donc il y a une compatibilité entre les Windows 2, 3, les Windows XP, Windows 2000 et les versions plus récentes. Et donc, vouloir être compatible, ça veut dire garder des trous qu'il y avait un peu avant. Il est possible, déjà avec Vista, ils ont fait un effort de changer cette philosophie, de rendre plus difficile l'écriture, les modifications de programme. Normalement, avec la nouvelle version là, qui est en train de sortir, au moins en test, Windows 7, ça sera encore mieux, plus sécurisé. Et peut-être une tentative de mieux utiliser aussi la TPM. Pour les logiciels libres, et c'est, je pense, un point très important, la TPM n'est pas incompatible avec les logiciels libres par principe. C'est-à-dire que si des organismes d'open source se mettent ensemble, ils peuvent générer des signatures chargeables dans les TPM pour garantir que leurs logiciels libres qui ont été validés par les développeurs de sources libres sont bien chargés et qu'ils ne peuvent pas être modifiés et qu'ils auront les mêmes caractéristiques. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas encore cette organisation des logiciels libres pour l'exploiter. Pourquoi ? Parce que ça a aussi une mauvaise image de marque. La TPM a été développée et beaucoup présentée publiquement comme étant une protection contre le piratage. Et donc, ça a une très mauvaise image de marque, au même titre que la loi Hadopi, qui est en cours de négociation à l'Assemblée nationale, a une très mauvaise image de marque, alors qu'elle est là pour lutter contre le piratage. Donc, en tant que tel, ça ne devrait pas être tellement négatif. Sinon, qu'elle a beaucoup d'autres inconvénients d'atteinte aux libertés individuelles, que personnellement, je n'accepte pas. Mais lutter contre le piratage, c'est une bonne chose. Mais ça a été tellement vu, la TPM et autres, que ça a gardé cette mauvaise image de marque. Et je pense que c'est plus ça que la volonté des développeurs, qui fait que les open source n'ont pas cherché à exploiter cette protection qui existe pour l'avenir. Peut-être qu'on s'est un peu éloigné du sujet.
Oui, c'était intéressant. Clairement, Mac PC, donc deux univers différents. Est-ce que le Mac est moins répandu, donc ça explique la moindre
c'est maladie. Les deux choses. C'est ouais. Le fait que le noyau lui-même est mieux fait et mieux protégé, mais il y a encore des trous, hein. Il y a aussi des failles. Alors que le Windows a trop évolué comme mise à jour. D'accord. De versions précédentes, mmh. En gardant les mêmes risques de départ de certaines caractéristiques. Il y a un autre point qui est aussi un peu caractéristique de Windows, qui est, c'était le cas de Vista un peu trop souvent, la machine, mais tous les programmes normaux, habituels, qui ont été conçus pour des versions précédentes, on veut faire ça, ça peut être dangereux, vous voulez quand même le faire. Il vous pose une question, et à chaque fois on répond oui, parce qu'on ne peut rien faire d'autre que répondre oui. Ça laisse l'utilisateur le choix d'exécuter son programme ou de ne pas l'exécuter.
Qu'est-ce que vous voulez répondre d'autre chose que oui? Donc, à force de poser ces questions, ben, on ne les pose plus, on ne regarde plus, on tape oui, 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 oui. Et donc, ça ne sert à rien, les protections de ce genre-là qu'on met dans les systèmes informatiques.
Je crois qu'il y avait une question par là.
Oui, bonjour. Je voulais savoir si on doit sauvegarder les données avant de reformater un disque dur. Si on restaure les données, est-ce qu'on risque pas de réinfecter l'ordinateur?
Alors, au sens strict de données, si c'était que des données, si j'étais sûr que c'était que des données, il n'y aurait pas de risque. Pourquoi? Parce que les données, ce n'est pas un programme. Moi, ce qui est dangereux, c'est un programme. C'est soit un verre, programme autonome, soit un virus, c'est-à-dire quelques instructions au milieu d'un autre programme. Tant que c'est que vraiment des données, mettons une image, une photo, un MP3, une musique, je ne serais pas gêné. Le problème, c'est que de plus en plus, et avec les outils sophistiqués comme Unix, Windows ou macOS, là, ils ont tous les mêmes caractéristiques, c'est de plus en plus difficile de distinguer qu'est-ce qui est un programme de qu'est-ce qui est des données. Parce qu'il y a des macros, dans un document Word, il y a des macros, dans un document Excel, pareil, et donc ça devrait être que des données, c'est jamais que du texte, le Word. Mais non, il y aura aussi des choses qui peuvent être exécutables et donc se propager comme un virus ou autre. Donc je dirais, si c'est strictement des données seulement, il n'y a pas de risque à restaurer les données. S'il y a des choses comme quelque chose qui ressemble à des programmes, ben, il vaudrait mieux passer par un intermédiaire, imprimer les données et puis retaper les données à la main. Si c'est vraiment très vital, il faut peut-être faire attention à ça. Mais en général, si c'est des données, il n'y a pas trop de risque. À nouveau, les photos de l'anniversaire du petit, normalement, il n'y a pas de risque. Il peut y avoir des choses malveillantes dans des photos, et on a des exemples comme ça, mais parce qu'elles exploitaient des failles dans les logiciels qui faisaient l'affichage des photos. Donc c'était des failles dans le logiciel, ce n'est pas la photo elle-même qui était dangereuse, c'était le logiciel qui était mal conçu. Je ne sais pas si ça satisfait la réponse. À nouveau, ce n'est pas simple de savoir la différence entre des données et des programmes.
Oui. Oui, parce que le KIDAM, chez lui, va pas avoir la solution. Là.
C'est pas toujours facile de reconnaître ça.
On vous appelle, qu'est-ce qu'on fait?
J'espère pas.
Avez-vous d'autres questions? Oui.